Chronique de confinement. Le masque et la prune. Une capsule sonore qui donne la parole aux bénévoles de prune depuis chez eux. Récit, billet d'humeur, création. Retrouve le quotidien de celles et ceux pour qui le confinement se raconte.
Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure du masque et la prune. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne, encore une fois en différé. Et comme d'habitude, on commence avec les éphémérides de John.
Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides.
Alors que s'est-il passé un 10 juin ? On commence le 10 juin 1793 avec la fondation juridique du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Un an plus tard, en 1794, avec le début de la Grande Terreur qui réduit les procès révolutionnaires à de simples formalités, qui entraînera la mort sur l'échafaud de milliers de simples suspects jusqu'à la mort du premier responsable de cette loi, Robespierre lui-même. 1944, 642 habitants du village d'Oradour-sur-Glane sont assassinés dans des conditions abominables par une compagnie SS, apportant à l'ouest une pratique utilisée à l'est, celui du massacre de l'entièreté d'un village, pour l'exemple. Oradour-sur-Glane deviendra le symbole de la barbarie nazie. 1949, sortie du roman que l'on peut dire d'anticipation, 1984 de George Orwell, que je vous conseille vivement en ce moment car il n'a jamais été autant d'actualité. Et une note plus joyeuse, le 10 juin 1988, premier concert européen des Pink Floyd lors de la tournée A Momentary Lapse of Reason Tour, qui s'est déroulée à Nantes au stade de la Beaugeoire. On passe aux naissances, 10 juin 1819, celle de Gustave Courbet, peintre français, chef de file du courant réaliste. 1922, naissance de Judy Garland, reconnue comme l'une des meilleures actrices de toute l'histoire et également chanteuse, elle a tourné dans A Star Is Born, Le Chant du Missouri ou évidemment Le Magicien d'Oz, pour lequel elle aura un Oscar et pour lequel elle chantera ça. En 1942, chanteuse pour enfants incontournable des années 80-90, Chantal Goya. Alors là, niveau hit, on a Pandi Panda, Le Chat Botté, C'est Guignol, Booba le Petit Ourson, Bécassine, et bien sûr ça.
Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui. Ce matin, un lapin.
Et beaucoup beaucoup d'autres. 10 juin 1959, anniversaire de François Morel, actuellement confrère sur France Inter, il est célèbre pour avoir tenu le rôle principal dans la série de programmes courts Les Déchiens dans les années 90. Pour les décès, un 10 juin nous perdions en 1836 André-Marie Ampère, mathématicien et physicien français, on lui doit le développement des mathématiques en physique, d'importantes découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme ou encore l'électro-aimant. 1930, Ray Charles, chanteur, compositeur et pianiste légendaire. Allez, un petit extrait, ça me fait plaisir.
Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Voilà. 1940, Marcus Garvey, journaliste jamaïcain et militant noir, considéré comme un prophète pour les adeptes du mouvement Rastafari. Et pour terminer, je vous parlerai de Joseph Bologne, mort le 10 juin 1799, plus connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges, compositeur, chef d'orchestre, escrimeur et militaire français. Il participe activement à la Révolution française, il est une figure de l'émancipation des esclaves étant né esclave lui-même, et il est considéré comme le premier compositeur noir de l'histoire. Niveau composition, il est surtout connu pour ses concertos, mais nous allons écouter un extrait de l'ouverture en allegro de L'Amant anonyme de la symphonie numéro 1 en Ré majeur 11e opus. Il est à présent grand temps de passer à notre sommaire. Au programme ce soir des nouvelles des municipales, la liste verte Nantes Ensemble a fini par s'unir avec la liste conduite par l'actuelle maire de Nantes, Johanna Roland. Un programme commun qui fusionne jusqu'au nom des listes pour se nommer Ensemble Nantes en confiance a donc vu le jour et l'union pour ce deuxième tour des municipales a été officialisée la semaine dernière lors d'une conférence de presse. Quentin y était pour prune, il nous racontera les détails de cette fusion à la fois attendue et surprenante. Nous aurons également le Labo des Savoirs avec Capsule de Science et ce soir, non, ce n'est pas un fossile vivant, le Célacanthe est un gros poisson des profondeurs à la nage unique. Pour nous en parler, Maxime Labat a joint Rohan Mansuy, doctorant au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris dans le laboratoire Mécanisme, Adaptation et Évolution. C'est tout de suite.
Le masque et la prune.
Trois mois après le très controversé premier tour des élections municipales, Julie Lernous, candidate Europe Écologie Les Verts à la mairie de Nantes et arrivée en troisième position, a annoncé son alliance avec Johanna Roland, candidate à sa propre succession et arrivée en tête des élections. Alliance qui peut d'ailleurs paraître étonnante, tant Julie Lernous a été critique envers le bilan écologique de la mandature Roland tout au long de la campagne du premier tour. Le 2 juin dernier, elles ont donc présenté lors d'une conférence de presse leur programme commun ainsi que la liste désormais fusionnée. Union dont se félicite Johanna Roland, tout en taclant le choix des écologistes de partir seule lors du premier tour.
La liste conduite par Julie Lernous a décidé de rejoindre la liste que j'ai conduite dès le premier tour. Évidemment, je m'en réjouis. Évidemment, je m'en félicite. J'avais, dès le premier tour, dit pourquoi j'étais favorable au rassemblement de la gauche et des écologistes.
Sur la forme, deux noms présents sur la liste commune peuvent paraître étonnants. Le premier, Florian Leteuf, en quatrième position, qui avait été hautement critique envers Johanna Roland et son équipe lors du débat portant sur le projet Yellow Park. Les débats entre les deux camps avaient été d'ailleurs extrêmement vifs et virulents. Le second, Christophe Jouan, en 32e position, cofondateur de l'autre cantine. Il avait enfariné Johanna Roland sur un marché en octobre 2018, ce qui lui a valu une condamnation. Johanna Roland justifie l'intégration à la liste de ce dernier comme une seconde chance.
La liste que Julie a conduite a été placée à la hauteur que vous connaissez au premier tour. Et les deux personnes que vous situez étaient dans cette liste. Moi, je respecte la démocratie et toutes les règles de la démocratie. Toujours. Est-ce que c'est un choix? Oui, ça l'est. Assumé. Pourquoi? Le respect de la démocratie. La main que j'ai tendue sur l'aide alimentaire pendant la période de crise et la volonté de laisser une chance. Et je le dis, je l'ai dit à Julie, elle le sait, il y a une chance. Les règles du jeu, ça vaut pour tout le monde.
Au niveau des places, les Verts sont gagnants.
Sur une liste de 69 colistiers, 26 candidats pour la liste qui était conduite par Nantes Ensemble et 43 pour la liste qui était conduite par Nantes en confiance. C'est la même logique. Pour les futurs adjoints, si les Nantais nous font confiance, le 28 juin, ça veut dire que concrètement, sur 26 adjoints, il y aurait 10 adjoints issus de la liste Nantes Ensemble et 16 adjoints issus de la liste Nantes en confiance.
Concrètement, cela fait 8 places éligibles de plus qu'en 2014, 3 postes d'adjoints supplémentaires et un rôle plus important pour Julie Lernous à la métropole. En revanche, Johanna Roland a refusé la vice-présidence au sport à Florian Leteuf, ancien numéro 2 de la liste Nantes Ensemble. Sur le fond, Johanna Roland et Julie Lernous ont trouvé 5 points de désaccord.
Nos sujets de désaccord, on les a listés, on les a identifiés. C'est assez simple, ils sont au nombre de 5. Rien ne vous surprendra. L'arbre héros, le CHU, la vidéoprotection, l'hypothèse d'un nouveau franchissement et la création de places autour de la gare et du concierge.
Dans l'accord d'alliance, il est donc prévu une liberté de vote pour les élus de la liste de Julie Lernoux sur ces sujets. Selon cette dernière, cela lui permet de ne pas renier les idées et les valeurs de sa liste présentée au premier tour.
Avec cet accord, je suis et on reste tous les colissiers extrêmement fidèles à nos valeurs parce que c'est la meilleure manière de les concrétiser et on a besoin de les concrétiser. Les écologistes n'ont jamais renié le fait de prendre des responsabilités pour infléchir des choses.
Selon elle, 60% des idées de Nantes Ensemble se retrouvent dans le nouveau programme.
60% de nos propositions du premier tour se retrouvent dans ce programme du deuxième tour. Je pense que c'est important de le rapporter, c'est-à-dire que nous ne mettons pas nos convictions sous le tapis, nous les avons au contraire renforcées puisqu'elles seront maintenant portées collectivement.
Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le programme de Johanna Roland suite à l'alliance avec Julie Lernoux? La place du vélo est désormais plus grande. Le budget vélo par habitant passera, si la liste désormais appelée Ensemble Nantes Confiance est élue, de 13 à 30 euros par habitant. Le projet de construire un parking souterrain place de la Petite Hollande et d'agrandir le parking de la gare sont eux abandonnés. Des assises des solidarités seront organisées en septembre, tout comme un débat et un moratoire sur la 5G, sujet qui tient à cœur aux écologistes, durant la première moitié du mandat. Autre sujet auquel Julie Lernoux tenait, l'augmentation du nombre de gardiens d'immeubles. Cette proposition se retrouve désormais dans le nouveau programme. Quant à la santé, sujet désormais majeur, des centres de santé pluridisciplinaires, publics ou associatifs, seront créés en complément des futures maisons de la santé de Bellevue et de Nantes-Nord si la liste est élue. Autre annonce majeure et inattendue, la suspension du projet d'agrandissement de la Cité des Congrès.
Le projet d'extension de la Cité des Congrès, suite à la crise et à l'aune de ce que je viens de dire, ne paraissait aujourd'hui pas une priorité et donc est mis à l'arrêt.
Cette annonce a d'ailleurs fait réagir Laurence Garnier et Valérie Opelt, adversaires de Johanna Roland au second tour, qui estiment ce reniement grave pour le développement de la ville. Enfin, 1% du budget de la métropole sera consacré à la mise à l'abri des personnes à la rue. Les sujets des tensions à la fin du mandat de Johanna Roland entre les ex-adversaires à la mairie a également été évoqué. Pour éviter de nouvelles tensions, un contrat de mandat a été mis en place.
Ce contrat de mandat repose sur trois choses et on vous les communiquera, je le redis, de manière exhaustive. La première, c'est un texte d'orientation. Parce qu'une élection démocratique, c'est d'abord la présentation d'une vision. C'est d'abord projet contre projet. Donc, ce texte d'orientation. Ensuite, le deuxième élément de notre contrat de mandat, évidemment, ce sont nos propositions. C'est le programme qu'on va désormais présenter ensemble aux Nantais. 323 propositions. Et puis, le dernier élément de ce contrat de mandat, c'est un pacte de gouvernance collective.
Pour un travail en toute clarté, des réunions pour évoquer les grands projets de la ville seront organisées tous les lundis avec la présence de Johanna Roland. Le but est d'éviter qu'un projet n'apparaisse sans avoir prévenu l'ensemble de la majorité, comme cela a été le cas avec le Yellow Park. Les réactions à cette alliance ont été évidemment nombreuses, à commencer par la candidate Les Républicains à la mairie, Laurence Garnier. Elle a d'abord réagi en musique, en jouant l'arnaque de Scott Joplin pour dénoncer cette alliance. Elle a par la suite qualifié l'alliance de foutaise et d'alliance politicienne pour en conclure que Julie Lernoux a négocié 20 postes à la mairie de Nantes contre la suppression de 20 places de parking ici ou là à Nantes. Côté La République En Marche, Valérie Opelt a également dénoncé de manière virulente cette alliance. 5 jours de chantage, de calcul et d'instrumentalisation de la candidate de Nantes en commun pour des postes en période de crise. C'est une honte, on se moque des Nantais, déclare-t-elle. Elle semble oublier qu'elle a aussi fait un calcul politique similaire en proposant une alliance absurde entre les 4 candidates du second tour. Tentative d'alliance qualifiée de coup médiatique par Julie Lernoux.
Quant à la proposition de Valérie Opelt, je suis désolée, mais je pense que faire fusionner un programme avec celui de Valérie Opelt aurait été de l'ordre de l'impossible, tant les valeurs mêmes, l'analyse de la crise, nous ne la partageons pas, nous ne la partageons pas au premier tour, nous la partageons encore moins aujourd'hui. Cette proposition ne faisait pas beaucoup de sens d'ailleurs, et c'était plus de l'ordre d'un coup médiatique.
Enfin, Margot Médecourt, candidate Nantes en commun, qui avait proposé elle aussi une alliance à Julie Lernoux, parle de reniement des idées écologistes. Elle explique que le choix des Verts est le choix des petits pas en matière écologique en jouant le jeu de la politique de la croissance et de la métropolisation de Johanna Roland. En tous les cas, la fin du règne du Parti Socialiste à la ville de Nantes n'est pas pour demain, et Laurence Garnier voit encore son rêve de maire s'éloigner, ce qui explique sa réaction. Cependant, son avenir politique ne semble pas compromis, puisqu'à poste de sénatrice, en plus de son poste de conseillère municipale et la vice-présidence à la culture en région Pays de la Loire, l'attend après les élections.
Le masque et la prune.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous.
Humanité confinée, déconfinons les idées. Capsule de science, par le Labo des Savoirs.
Roanne Mansuit dans le Labo des Savoirs confiné. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Vous arrivez à travailler depuis le confinement ?
Ouais, je bosse moins efficace que quand je suis au labo, mais j'arrive quand même à bosser. J'avais pris tout ce qu'il me fallait pour consulter, donc c'est toujours possible.
Alors, vous êtes en thèse au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Dans quel laboratoire vous êtes ?
Alors, moi, je suis dans deux laboratoires au muséum. Je suis principalement affilié au laboratoire du CR2P, c'est le centre de recherche de paléontologie de Paris, et également au centre à MECADEV, mécanisme évolutif de l'adaptation.
Ok.
Mécanisme adaptatif de l'évolution.
De l'évolution, oui. Et quel est le sujet de votre thèse là, sur lequel vous travaillez en ce moment ?
Moi, je travaille sur le sélacanthe. La sortie des os des vertébrés en général. Et je m'intéresse plus particulièrement sur l'évolution des nageoires et des nageoires pectorales et pelviennes du sélacanthe.
Alors pour les passionnés de biologie, bien sûr, tout le monde a fait « Oh, sélacanthe, trop bien !» Alors pour ceux qui sont moins au courant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce poisson ? Alors ça fait partie des grands mythes de la biologie parce que ça a été découvert finalement assez récemment, ou en tout cas découvert par les biologistes européens assez récemment.
Ouais, c'est ça. Le sélacanthe, c'est un poisson qui nous est plus apparenté qu'il ne l'est des autres poissons. C'est-à-dire qu'il partage plus de points communs avec nous qu'il partage avec la truite, par exemple. Et un des caractères qui font que le sélacanthe nous est plus apparenté, c'est par exemple le squelette de ses nageoires. Parce que chez les poissons, en général, on a les rayons des nageoires qui s'insèrent directement à la base du corps. Alors que chez le sélacanthe, tout comme chez nous, il y a différents os le long de la nageoire qui sont similaires à l'humérus, radius, etc. Et qui font ce qu'on appelle une nageoire musculeuse ou une nageoire lobée.
Pour que les gens puissent visualiser un petit peu aussi, donc il y a ces nageoires assez impressionnantes à la base, on va peut-être y revenir. La taille que fait ce poisson à peu près ?
Le sélacanthe, il fait entre 1m30 et 2m à l'âge adulte, sachant que les plus gros spécimens qu'on a trouvés, c'est des femelles à chaque fois, celles qui atteignent quasiment 2 mètres. Les mâles sont en général plus petits.
Ouais, donc c'est quand même très gros.
Très grosse bestiole qui peut atteindre les 60-70 kilos.
Alors la première fois qu'elle a été observée, c'était pendant le XXe siècle et c'était dans les Comores. Qu'est-ce qui fait que ça a été si peu observé ?
En fait, c'est par les Européens, les Occidentaux, c'était vraiment pas connu avant, c'est sûr. Mais pour les personnes qui habitent aux Comores, à Madagascar, Afrique du Sud, les populations locales connaissaient quand même déjà un peu le sélacanthe parce que ils le pêchaient de temps en temps. Mais comme c'est un poisson qui a aucun intérêt au niveau alimentaire, ils le rejetaient à chaque fois.
C'est pas bon ?
Apparemment, c'est dégueulasse.
Ah oui. tant mieux pour lui.
Tant mieux pour eux. Aussi, pourquoi on a eu beaucoup de mal à l'observer, nous les Européens, avant qu'il soit observé par hasard sur un étal de poissonnier ? Le sélacanthe, il vit profondément sous l'eau. Le plus haut où il remonte, c'est 50 mètres de profondeur, et c'est juste à une zone en Afrique du Sud. Sinon, en général, c'est entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et c'est aussi un animal qui vit principalement la nuit. Le jour, il dort dans des cavernes souterraines, et c'est la nuit où il sort pour aller chasser. Et en plus, en général, quand il va chasser, il plonge pour aller chercher sa nourriture. Donc, on pense qu'il peut descendre à 200, 300, 400, voire 800 mètres de profondeur. Ça fait que c'est difficile à observer. Et comme en plus, il aime vivre dans des zones où il y a des grottes, c'est souvent des zones très en pente où les chaluts ne peuvent pas aller. Donc, les filets, tout ça, on n'a jamais pu les capturer dans des filets.
Alors, paradoxalement, c'est un animal des grands fonds, donc qui vit vraiment au large, dans les grandes profondeurs. Et en même temps, c'est le modèle le plus proche qu'on a des parents des vertébrés qui sont sortis des eaux. Alors, c'est à peu près à quel moment de l'histoire du vivant que s'est passé cet événement historique ? Et c'est quoi le rapport avec le sélacanthe ? Parce que c'était il y a des millions d'années et son mode de vie n'est pas lié au fait de sortir à l'extérieur de l'eau.
Alors, la sortie des os des vertébrés, ça s'est passé au Dévonien, donc il y a 320 millions d'années à peu près. C'est pas notre plus proche parent chez les autres animaux. Il y a aussi les dipneus qui nous sont encore plus apparentés. En fait, le dipneus n'est pas marin, il est aquatique, mais il vit dans les eaux douces. C'est une des raisons pour lesquelles le coelacanthe est plus considéré comme un modèle pour étudier la sortie des os des vertébrés. C'est parce que on suppose que la sortie des os des vertébrés, c'est pas faite par les rivières, mais c'est faite directement des océans au continent. Et comme le coelacanthe est un animal marin, c'est pour ça qu'on pense qu'il peut nous donner déjà plus d'informations que le dipneus.
Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais le dipneus, lui, c'est pas ses nageoires qui sont particulièrement proches de la formation de notre bras, mais c'est plutôt leur système respiratoire, non? Et d'une certaine manière, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Le système respiratoire des coelacanthes est assez spécial aussi.
Le dipneus, il a un système respiratoire double, avec à la fois des branchies et des poumons, qui lui permettent de respirer à l'air libre. Et pour certaines espèces, Neoceratodus, par exemple, le coelacanthe australien, pendant la période sèche, il se fait un cocon dans la vase et il ne respire qu'avec l'air. Il y a certains dipneustes aussi, si on les laisse uniquement dans l'eau, si on les empêche de revenir à la surface, ils sont incapables de respirer. Il faut qu'ils aient la respiration double, branchiale et pulmonaire. Et le coelacanthe aussi il a des branchies, des grosses branchies, mais il a également, le coelacanthe actuel, un poumon qu'on appelle vestigial, qui n'est absolument pas fonctionnel. Mais il y a une étude assez récente, 2015, si je me souviens bien, qui a étudié le développement du poumon chez le coelacanthe, grâce à des embryons et au coelacanthe adulte, et qui a comparé avec des données fossiles. Et ces données laissent suggérer que les coelacanthes, d'autres espèces de coelacanthes en tout cas, il y a 300 millions d'années, 400 millions d'années, avaient un poumon fonctionnel et étaient capables d'avoir la respiration double, tout comme le dipneus.
Oui, parce que finalement, le coelacanthe, on appelle souvent ça un fossile vivant, mais en fait, parce qu'il faisait partie d'une famille qui était extrêmement diversifiée et qu'il n'y a plus qu'une seule espèce qui est en vie maintenant, et malheureusement pour vous, pour l'étudier, elle est dans les grandes profondeurs et pas dans les rivières comme ont pu l'être d'autres de ses cousins. Comment vous faites pour travailler vraiment sur le mouvement? Parce que du coup, on a compris que vous, votre laboratoire s'intéresse vraiment aussi à la partie biomécanique donc comment ils déplacent toutes ces nageoires. Vraiment, allez voir, si vous n'avez jamais vu des images de coelacanthes en mouvement, c'est incroyable, il y a énormément de nageoires qui bougent dans plein de directions différentes. Comment vous faites? Vous avez très peu d'images, et puis vous pouvez pas avoir un bassin dans lequel vous pouvez mettre en 3D le mouvement du coelacanthe. Alors comment on fait pour travailler sur ce mouvement?
Alors c'est vrai que le coelacanthe, on peut pas l'avoir en aquarium. Enfin, c'est le coelacanthe quand il a été pêché et remonté à la surface, du fait d'un changement de pression.
Il n'a pas fait de palier de décompression.
C'est ça. Et surtout, l'effort énorme que le coelacanthe déploie pour pas être remonté à la surface. En général, même quand on le remet dans l'eau après, il meurt rapidement en moins de 24 heures parce qu'il a épuisé toutes ses ressources, il est complètement mort. Mmh. Et c'est pareil, si on le met dans un aquarium, il survivra pas. Et en plus, on connaît absolument pas tout ce qu'il lui faut, quelle est sa nourriture exacte, quelle est la pression qu'il doit supporter, etc. Donc, on peut pas l'étudier in vitro en laboratoire. Mmh. Mais en 2013, il y a une expédition qui a été faite par le muséum, avec Gaël Clément, Marc Herbin, Laurent Balesta, le plongeur. Et justement, le muséum est parti avec Laurent Balesta en Afrique du Sud pour filmer en profondeur le coelacanthe. Et ils avaient monté en même temps un dispositif particulier qui avait deux caméras, une qui regardait par-dessus, une latérale, qui était montée sur une girafe, et qui a permis de filmer en vue latérale, en vue dorsale, le coelacanthe et le mouvement de ses nageoires. Il y a également d'autres vidéos qui ont été faites juste avec une simple caméra. On a énormément de vidéos sur le coelacanthe quand il nage, et tout ça, ça peut être utilisé pour étudier sa locomotion. Le coelacanthe, il n'a pas que nageoires pectorales et pelviennes qui interviennent dans sa locomotion. Il y a aussi deux nageoires, la anale et la seconde dorsale, qui ont exactement la même morphologie que les nageoires pectorales et pelviennes et qui interviennent dans sa locomotion. C'est même principalement elles qui propulsent l'animal quand il nage. Les nageoires pectorales et pelviennes, elles interviennent principalement pour se diriger, se stabiliser.
Alors quand il nage ou aussi quand il se déplace dans les grottes, parce que vous disiez qu'il est vraiment sur le tombant vraiment de la pente abyssale, est-ce qu'il se déplace lui aussi en raclant un petit peu le fond ou vraiment lui, il a tendance à jamais toucher vraiment le...
Il touche pas. En général, il touche pas. C'est... Les seuls moments, les plongeurs, ils nous ont dit, les seuls moments où ils ont vu le sélacanthe qui pouvait toucher le fond ou le bout d'une caverne, c'est des fois quand ils voyaient un plongeur qu'ils étaient un peu effrayés. Mm-hmm. Sinon, ils sont tout le temps assez proches du fond quand même, ou des bords, qui peuvent être à 20 cm, un truc comme ça, mais ils ne touchent pas.
Ouais, mais j'imagine que pour vous, faire le rapport entre la sortie des eaux et les modes de déplacement des sélacanthes, ça aurait été pratique s'ils touchaient vraiment le... Là vous commencez à voir un petit peu, à force d'étudier le mouvement des sélacanthes, vous commencez à percevoir un petit peu ce qu'a pu être la sortie au moment du dévonien des vertébrés.
C'est un peu compliqué, mais nous, en tout cas, en étudiant la locomotion du sélacanthe, on s'intéresse principalement à la coordination des nageoires entre nageoires pectorales pelviennes, et il y a certains patterns qui... rappelle le mouvement à certaines allures des tétrapodes, des premiers tétrapodes comme des salamandres, même des chevaux, tout ça. On reconnaît quelques schémas de coordination. C'est une chose qu'il n'y a pas forcément chez les autres poissons comme la truite, tout ça, qui eux utilisent principalement pour se déplacer leur nageoire caudale. Le sélacanthe utilise aussi cette nageoire caudale, mais en tout cas la coordination des nageoires pectorales pelviennes peut rappeler les tétrapodes. Pour la sortie des eaux, il y a une hypothèse qui dit que lors de la sortie des eaux des vertébrés, il y a eu un changement dans la dominance du membre qui permettait la locomotion. On présume qu'avant, c'était principalement les nageoires pectorales qui faisaient le gros de la propulsion. Et lors de la sortie des eaux des vertébrés, il y a eu une augmentation plus importante, on va dire, des membres pelviens. Et ce sont eux qui auraient permis de plus propulser le corps après. Donc là, ça sera plus des données musculaires, tout ça, qui peuvent aussi nous donner des infos là-dessus. Je suis encore en train de travailler dessus, donc je peux pas dire.
Super, bon, bah merci beaucoup. J'imagine que vous recommandez le documentaire de Balesta sur les sélacanthes, dans lequel il y a parmi les plus belles images qui ont jamais été filmées des sélacanthes. Un autre conseil peut-être de lecture ou de documentaire, c'est un sujet qui en même temps est un sujet phare en biologie et qui est assez connu, mais il y a tellement peu d'images que finalement il y a assez peu de...
Il y a vraiment pas beaucoup d'images sur le sélacanthe. Après, il y a en livre, il y a quelques bouquins qui sont sortis de Lionel Cavin, par exemple, qui parlent du sélacanthe et qui sont en français. Non, la plupart des bouquins sont en anglais. Lionel Cavin, il a sorti un livre l'an dernier sur le sélacanthe. Je sais plus le titre exact, mais qui est intéressant aussi.
Bah merci beaucoup, bon confinement. Et puis j'espère qu'on pourra faire une émission entière sur... sur le sélacanthe, une fois qu'on aura de nouveau le droit de sortir de chez nous, comme le sélacanthe aura le droit de sortir des eaux un jour, peut-être.
Peut-être.
Merci beaucoup, restez chez vous, et puis à bientôt, j'espère.
À bientôt.
Ouais. Au revoir.
Psst. Et toi, tu veux rejoindre notre association ? Le Labo des Savoirs recrute. Alors, si c'est le cas, n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou par mail à communication@labodessavoirs.fr. À bientôt!
Merci beaucoup à Quentin pour ce reportage et merci au Labo des Savoirs pour ce sujet passionnant. Et merci à toute l'équipe, évidemment. Vous retrouverez le Masque et la Prune dès demain à 18h. Quant à nous, nous aurons la chance de vous retrouver mercredi prochain et en podcast sur le www.prune.net. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Restez sur Prune 92 FM. À la prochaine.
Le Masque et la Prune. C'est une capsule sonore à retrouver sur Prune chaque jour à 18h. Tant qu'il y aura des masques.